19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Né de la crise du logement des années 1960, un groupe de tours de 15 étages s'amoncelle entre Seine et autoroute francilienne. Ici, quelques 10 000 âmes, un quart de la population de Corbeil-Essonne y vit, dont près de la moitié a moins de 20 ans. Bienvenue au Tarteret. Tout à la fois quartier sensible par excellence, banlieue stigmatisée et zone de sécurité prioritaire au cœur de l'Essonne, les Tarterets est surtout connu pour sa mythique bande, dont la notoriété dépasse les unes de la presse régionale. Rixes et affrontements, bagarres et bastons, guerre de gangs en centre-ville ou au cœur du centre commercial d'Evry, face à face avec sa grande rivale, la tribu de Montconseil. Lieu de violence, mais aussi de création, les Tarterets se chantent, notamment par deux frères, PLN, roi du rap français, champion du clou de rap. Bon, c'est la vie, j'espère qu'en gaffe, tu as su te taire. Aujourd'hui, les Tarterets et sa bande sont une fois encore sur le devant de la scène, mais pour une actualité issue du passé, un passé dont ils peuvent être fiers, puisqu'il ne date pas d'hier, la bande des Tarterets a 15 000 ans. Ancêtre et lointain voisin, à la fin de la préhistoire, une bande de chasseurs fait halte au cœur de la steppe des Tarterets. Les vestiges de cette horde sont désormais l'objet d'une fouille, entreprise par l'Université de Paris 1, l'INRAP et le CNRS, l'occasion de se rendre sur le terrain où l'on retrouve Boris Valentin, professeur à la Sorbonne.
Pas d'honneur, toi, tu sens d'ici, voilà, baba, m'a dit mon fils, non, non, toi, pas calculer ses pétales. Moi, j'ai donné pendant longtemps.
La bande, la horde, voici une notion qui fleure bon la préhistoire.
C'est une notion qui a été beaucoup utilisée à propos des chasseurs-cueilleurs mobiles, nomades, et qui renvoie à une époque où on pensait l'histoire de l'humanité d'une façon très évolutionniste, avec des stades obligés où on passait par la sauvagerie initiale, la bande, la horde, jusqu'à la civilisation d'aujourd'hui. Le régime de la bande, des chasseurs-cueilleurs nomades, fut un mode d'existence extrêmement répandu dans le monde jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'aux colonisations. Voilà, donc c'est effectivement un terme qui est un terme stigmatisant. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il y ait des parallèles avec des mots que l'on utilise aujourd'hui pour stigmatiser d'autres populations. Bon, et si on revient à nos chasseurs-cueilleurs d'il y a 15 000 ans, chasseurs-cueilleurs nomades, il faut imaginer des petits groupes très structurés, très organisés, qui pratiquent un nomadisme planifié, organisé. Donc ce ne sont pas du tout les hordes errantes qu'on imaginait au 19e siècle.
Alors quel mot utilisez-vous dans votre jargon de préhistorien? À défaut de hordes ou de bandes, vous diriez des sociétés, des communautés?
C'est vrai qu'on utilise le terme de bande en référence au vocabulaire qu'utilisent les anthropologues anglo-saxons pour décrire ces petits groupes entre 20 et 40 personnes, ce qu'on observe chez les chasseurs-cueilleurs nomades d'aujourd'hui, alors qu'ils nomadisent parfois ensemble et qui parfois se dispersent aussi à d'autres saisons de l'année. Donc il y a des moments de dispersion, il y a des moments de rassemblement où les gens sont entre 20, 30, 40 personnes à peu près.
On pourrait même dire que la bande des Tarterets aurait 15 000 ans, plongée dans le passé très lointain et toujours intéressant pour les populations qui vivent en ces lieux.
Je pense, vu le succès de toutes les actions de valorisation qui ont eu lieu déjà autour de ce site pour préparer la fouille au printemps dernier, il y a eu des journées de présentation qui ont réuni beaucoup d'habitants, des voisins. Eh bien, les gens d'aujourd'hui qui habitent ici sont venus voir leurs anciens voisins, s'intéressent à qui étaient leurs anciens voisins. Je n'ai pas dit ancêtres, bien sûr, parce que ce ne sont pas plus nos ancêtres que ça peut être les ancêtres des aborigènes ou des inuits d'aujourd'hui, vu tous les métissages qui se sont produits depuis. Ce sont leurs anciens voisins, et effectivement, je trouve que c'est assez sympathique cette rencontre dans une zone qui est une zone qui était autrefois très rurale, jusqu'aux années 1970, ce qui explique aussi que les sites archéologiques soient assez bien préservés et qui ensuite a accueilli donc des grandes cités qui ont poussé très vite. Si bien que les gens peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de passé ici, et ils découvrent en fait un passé qui est très ancien, qui existe sous leurs pieds.
Enfin, on est quand même entre les tours et les entrepôts.
Ah oui, 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 on est même sous une décharge ici. Je vois un téléphone, un vieux téléphone que j'utilisais dans les années 80. C'était une décharge publique, hein, on fouille en dessous. Alors, on cherche les débuts de l'anthropocène, c'est peut-être là. C'est assez stupéfiant hein, quand on arrive. Hein. On voit le degré de pollution, justement, c'est à ça que sert l'archéologie, hein, bien souvent, à matérialiser des idées générales. Et on voit quand même l'ampleur de la pollution et la quantité de restes qui sont abandonnés ici, c'est assez saisissant.
Bon, Zalentin, les anthropologues étudient ce genre de sujet. Les décharges sont les poubelles du passé, c'est au cœur de notre sujet.
Oui, il y a même eu des expériences dans les années 1970 aux États-Unis de fouilles de poubelles contemporaines, la garbage archaeology. Bon, il faut des spécialistes pour ça. Hein. C'est ici, la priorité, c'est quand même d'étudier les vestiges très anciens. Voilà, s'il y avait un contemporanéiste dans l'équipe, peut-être qu'il mettrait au point un petit protocole pour étudier ce patrimoine tout récent. Mais c'est un patrimoine qui nous informe justement sur la société de consommation et ses excès délirants. Donc après tout, il pourrait y avoir une archéologie de ça. Et ils sont pratiques dans d'autres équipes où il y a des spécialistes, oui.
La garbage archéologie, l'archéologie des poubelles, Ludovic Mevel, vous la faites même si elle a 15 000 ans?
Tout à fait, c'est un peu notre fonds de commerce aussi pour la préhistoire, puisqu'évidemment, ce qu'on retrouve, c'est ce qui a été abandonné par les groupes préhistoriques, donc essentiellement leurs déchets. Alors voilà, ils se matérialisent un petit peu différemment des déchets les plus récents, mais c'est tout à fait la même chose. Alors voilà, on va avoir du silex, de la faune, des restes de foyers, des vidanges de foyers, de la cendre peut-être. Mais bon, voilà, ça sera pour nous des poubelles intéressantes.
Et est-ce qu'on peut rêver aussi à tout ce que l'on n'a pas?
Ces vestiges-là, évidemment, nous permettent d'envisager ce qu'on n'a pas. Oui, bah oui, oui, oui. Les analyses qu'on mène nous permettent d'envisager voilà, les manches qui ont pu être utilisées, les matières qui ont pu être utilisées pour fabriquer ce qui a malheureusement pas été conservé. Les sédiments dans lesquels sont enfermés ces sites anciens ne permettent malheureusement pas de conserver tout ce qui est organique. Et là, bah voilà, là, il faut l'imaginer.
Les Tarterets, donc, haut lieu bien connu, mais haut lieu aussi de la préhistoire, parce que nous sommes sur le Tarteret numéro 3, ce qui implique que l'on en avait déjà trouvé des vestiges, et des vestiges anciens, datés de environ 15 000 ans, il y a bien longtemps.
C'est ça. Au moment de la construction de la N104, là, qui est juste à côté de nous, et de la cité qui est aussi à côté de nous, donc deux sites avaient été découverts au tout début des années 70, à un moment donné où l'archéologie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Les archéologues intervenaient parfois dans des conditions assez extrêmes. Les Tarterets 2 a été découvert grâce au passage d'étudiants qui fouillaient à l'époque au Tarteret 1. Et en regardant dans les ornières des bulldozers qui terrassaient à côté, ont mis en évidence la présence d'un site qui a été fouillé en quelques semaines de manière dantesque, si on se réfère à ce qui a été laissé par les fouilleurs Michel Brézillon et son équipe à l'époque.
Qu'est-ce qu'il y avait ?
Sur les deux premiers, les sites fouillés dans les années 70, exclusivement du silex et des restes de foyers, notamment au Tarteret 1, où on a un très beau foyer qui avait été découvert, donc des grosses pierres organisées avec des vestiges de combustion au milieu. Au Tarteret 2, uniquement des amas de silex, donc des concentrations, ces poubelles de silex qui ont été abandonnées par les tailleurs de silex.
Boris Valentin, ces deux sites des Tarterets étaient-ils des sites importants pour la préhistoire du bassin parisien ?
Alors les Tarteréens sont tout à fait intéressants parce qu'ils montrent aussi des occupations plus anciennes qu'il y a moins 15 000 ans. Il y a une occupation par l'homme de Néandertal à la base de la coupe qui a été faite. Ensuite, il y a des occupations aux alentours peut-être de moins 25 000, puis moins 15 000, donc ce qu'on appelle le Magdalénien qu'on retrouve ici au Tarteret 3 et au Tarteret 2 et à Étiole. Alors, juste à côté d'ici, donc à 1,5 km, il y a le grand site d'Étiole, hein, qui est un site occupé il y a 15 000 ans, où il y a plusieurs passages successifs de ces nomades, une quinzaine au moins, et avec un degré de conservation tout à fait exceptionnel. On espère qu'au Tarteret 3, on va atteindre aussi ce même degré de conservation. À Étiole, donc, c'est tout à fait remarquable. Et il se déroule à Étiole, donc, des fouilles depuis maintenant 50 ans. Et le but, c'est aussi de comparer hein, les modes de vie de part et d'autre de la Seine, puisqu'on est sur les... Étiole, c'est rive droite, et ici, on est en rive gauche. Hein, donc, voir éventuellement s'il y a des relations entre les deux, s'ils sont les mêmes gens qui sont venus à des saisons différentes, par exemple. À Étiole, on sait que c'est pendant les qu'ils sont venus au Tarteret, est-ce que c'est une occupation d'automne, d'hiver, que sais-je, ou bien est-ce que c'est un peu plus récent, un peu plus ancien, les datations étant assez imprécises pour cette époque, il peut y avoir un écart de temps entre les deux.
Ludovic Mevel, ce que je vois c'est une fouille avec des sédiments très jaunes,
très sableux. C'est quasiment la plage hein, en bas sur le site. On a des dépôts de très fins de sable qui se sont succédés. Alors là, maintenant, on ne sait pas en combien de temps ça s'est déposé, mais ce sont quasi exclusivement des sables qui proviennent d'un bras de la Seine qui n'existe plus aujourd'hui ou qui ont conservé ces vestiges.
On peut penser à des alluvions qui ont recouvert ces vestiges archéologiques ?
Tout à fait, c'est un peu l'hypothèse qu'on a. Enfin, ça paraît à peu près évident que ce sont ces alluvions qui sont venues recouvrir et conserver ces vestiges en os, ces vestiges en silex qu'on voit tout juste apparaître. Là, on vient de commencer l'opération, la fouille. Donc là, on a encore que quelques vestiges qui apparaissent, mais c'est déjà prometteur puisque les premiers coups de truelle après le passage de l'appel mécanique ont permis de mettre en évidence déjà des petites concentrations.
Ça doit être extraordinairement facile à fouiller.
Même trop, c'est extrêmement fragile, hein, le sédiment est très pulvérulent. Donc il va falloir aussi qu'on s'adapte à ce paramètre-là. Donc il va falloir être très minutieux dans notre façon de fouiller ce site, de sorte à laisser le maximum les objets en place pour bien comprendre l'organisation du site, son organisation spatiale, comment les vestiges s'organisent entre eux. Donc il va falloir être très minutieux. Donc c'est la plage, mais on va éviter de s'affaler comme on peut le faire sur les plages estivales.
Si je comprends bien, c'est l'organisation des objets qui va donner sens à ce site et éventuellement à un habitat.
Tout à fait. Alors c'est à la fois ces questions d'organisation. Derrière l'organisation, qu'est-ce qui est représenté comme type de vestige ? Est-ce qu'on va mettre en évidence justement des zones de rejet ou au contraire des zones d'activité avec beaucoup d'outils ? Où est-ce que la faune va être localisée ? Est-ce qu'elle est localisée à proximité de ces zones d'activité ou au contraire localisée dans d'autres secteurs ? Est-ce qu'on peut mettre en évidence des foyers, des calages de tentes tels que ça a pu être mis en évidence à Étiole par exemple ? Ça, ce sont des choses qu'on peut envisager de retrouver aussi puisque ces groupes magdaléniens sont venus s'installer au Tarteret et ils se sont probablement abrités puisque on a des éléments qui nous permettent de démontrer qu'ils ont taillé du silex et vraisemblablement pas mal de silex puisqu'on a déjà pas mal de blocs qui ont été découverts. Donc s'il y a les blocs, on a espoir de retrouver ce qui va avec. Donc c'est les éclats, les lames qui ont pu être utilisées.
C'est ce qu'on voit à peu près en blanc avec une sorte de silex un peu patiné ?
C'est ça tout à fait, ce sont ces éléments, ces éclats. Pour le moment, ce sont presque que des éclats, donc des déchets de taille. On a aussi déjà une petite lame, enfin une lame de beau gabarit qui a été découverte.
Est-ce que vous avez aussi des éléments, je dirais, infimes, fugaces ? Est-ce que tout ça, ce n'est pas que les gros éléments qui seraient restés liés au cours du fleuve ?
Alors ça va faire partie des choses à tester, effectivement. Est-ce que toute la fraction fine, tous les plus petits éléments, qui peuvent être consécutifs de plein d'activités, notamment de la taille du silex, ont été conservés ? On va voir si c'est le cas. Alors pour ça, on va, d'une part, en fouillant minutieusement, on va pouvoir le vérifier, et en tamisant ces sédiments, on va pouvoir aussi le vérifier, et voir retrouver des vestiges qui sont parfois très difficiles à découvrir en fouille, hein, type des petits éléments de parure, des coquillages par exemple, qui peuvent être d'origine lointaine, qui ont pu être portés, perforés et qui auraient pu être abandonnés et qui ne sont pas toujours faciles à identifier, même en fouillant très doucement. Donc, d'où l'intérêt aussi d'y aller minutieusement et de vérifier à l'intérieur des sédiments qu'on a fouillés si on n'a pas laissé passer des choses.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
3 jours, c'est un peu peu pour avoir déjà des résultats. C'est étonnant puisque de l'autre côté de la Seine, on a un site qui a été fouillé durant 50 ans, Boris Valentin.
Presque 50 ans. Étiole a été découvert en 1971 par des archéologues bénévoles et les fouilles ont commencé véritablement en 1972. Si on y fouille depuis si longtemps, c'est parce que on dit souvent qu'Étiole, c'est un des Pompéi de la préhistoire. C'est une image, bien sûr, il n'y a pas eu de catastrophe, mais ces inondations très douces de la Seine ont merveilleusement fossilisé les vestiges. Par conséquent, on peut aller très très loin dans la reconstitution des habitats et des modes de vie et comprendre aussi en quoi ces modes de vie, ces modes d'habitat sont spécifiques à cette période moins 15 000 et diffèrent de ce qui est plus récent ou plus ancien. C'est la qualité de conservation qui explique le fait qu'on y travaille depuis 50 ans, qu'on y forme aussi année après année les générations de cadres de l'archéologie d'aujourd'hui, hein, d'archéologie préhistorique, tous les cadres pratiquement de l'archéologie préhistorique en France et même parfois dans d'autres pays européens sont passés stagiaires à Étiole depuis 1972. C'est une annexe bouillonnante de l'Université Paris 1, hein, l'Étiole, un lieu de valorisation aussi important, puisque la recherche est étroitement connectée à cette restitution au public dont le Conseil départemental se soucie, hein, puisque Étiole, c'est un terrain qui appartient au Conseil conseil départemental avec l'aide de l'association Archéomédia. Donc tout ça explique cet investissement sur la longue durée. Centre de recherche où on élabore aussi des nouvelles méthodes, des méthodes de fouilles, d'enregistrement, ce qui permet ensuite des adaptations dans d'autres contextes, des contextes plus urgents, où il y a plus d'urgence, comme les fouilles préventives, ou des contextes particuliers comme les Tarterets. Voilà ce qui explique la pérennité de ces fouilles.
Et puis j'y ai aussi des souvenirs, car moi aussi j'y suis passé dans tout début des années 80. Alors justement, 50 ans d'un côté, 3 ans de l'autre, j'imagine que vous ne rêvez pas absolument de fouiller ça durant 50 ans. Le but, c'est avant tout de comprendre le fonctionnement de ce site.
Tout à fait, et si on a aussi choisi et monté un projet scientifique autour des Tarterets, c'est qu'il y avait aussi cette idée de fouiller des sites de la même période sur un temps plus court. Voilà. Les sites magdaléniens du bassin parisien ne sont pas forcément des sites qui ont été réoccupés des dizaines de fois comme c'est le cas à Étiole ou à Pincevent, mais ça peut être aussi des occupations plus fugaces. Voilà, là pour le moment on a peu d'éléments pour le dire, mais ça pourrait être aussi un autre aspect de ce site, un site plus léger, voilà, réoccupé peut-être une fois, deux fois, trois fois, on n'en sait rien, mais voilà, ça sera indépendant d'Étiole et on envisage de faire quatre campagnes a priori.
Cécile Olivier Alibert, on pourrait avoir plusieurs niveaux dans ce chantier des Tarterets 3 que vous commencez à fouiller?
Potentiellement, on peut avoir plusieurs niveaux de l'époque magdalénienne. Ces chasseurs-cueilleurs ont pu s'installer plusieurs fois sur le site des Tarterets 3, donc à des saisons différentes, ou se sont réinstallés aux mêmes endroits sur plusieurs millénaires. Nous savons que sur les autres sites des Tarterets 1 et 2 qui ont été fouillés dans les années 1970, au tout début des années 70, ils ont trouvé des vestiges plus anciens que le magdalénien supérieur. Ils ont retrouvé des vestiges essentiellement lithiques, donc du silex taillé, plutôt pour les périodes anciennes du paléo supérieur ancien, peut-être du gravétien. Et encore plus ancien, des vestiges du paléolithique moyen qui remontent à l'homme de Néandertal. Donc sur ce site des Tarterets 3, potentiellement, on peut retrouver, si on creuse plus profondément, d'autres vestiges bien plus anciens que ce que l'on fait actuellement.
Ce que vous avez aussi de très important, c'est que vous avez de la faune.
Oui, on a trouvé au diagnostic en 2012 des vestiges osseux, donc des os d'animaux. On a retrouvé du renne, un peu de cheval, mais ça c'est un petit peu plus douteux au niveau de la stratigraphie. Qu'on espère retrouver encore, c'est des vestiges bien conservés. Pour le début de la fouille, on a retrouvé des ossements, dont une dent a priori de carnivore. On attend que notre spécialiste archéologue passe ces jours-ci pour une détermination plus précise. Ces vestiges osseux sont très importants parce que c'est inédit pour le secteur des Tarterets, vu que dans les années 70, les sites des Tarterets 1 et 2 n'avaient pas livré de vestiges osseux. Donc on n'avait aucune possibilité de datation. Et le fait de découvrir des ossements va nous permettre d'éventuellement d'obtenir une datation au carbone 14.
C'est la preuve de très bonne conservation.
Tout à fait. Si on a ces vestiges osseux, on pourra aussi espérer faire des comparaisons avec les autres sites qui ont pu être fouillés dans le secteur, essayer de comprendre les stratégies de chasse de ces chasseurs-cueilleurs. On retrouve essentiellement ici du renne et du cheval. C'est les espèces qui étaient les plus chassées à l'époque magdalénienne.
Boris Valentin, peut-on expliquer cette densité d'occupation de sites archéologiques et grosso modo à peu près de la même période? Le magdalénien, on va dire donc la fin du paléolithique supérieur, il y a grosso modo 15 000 ans.
Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est comme nos datations sont imprécises, tout ça a pu s'étendre sur un certain nombre de siècles. Il faut nuancer au regard de cette durée. Ensuite, il y a peut-être aussi des phénomènes de conservation différentielle. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de sites parce que les sites sont bien conservés, parce qu'on est dans les dépôts d'inondation, donc de la Seine et de ses affluents. Bon, une fois qu'on a posé toutes ces nuances, on peut quand même remarquer, un, que la proximité de la rivière et de ses affluents, c'est une zone extrêmement favorable à la chasse, aux troupeaux de rennes notamment, puisque ces gens, une grande partie de leur économie est fondée sur le renne. On peut aussi remarquer que de part et d'autre de la Seine, donc Étiole rive droite, Tarterets rive gauche, on est sur des affleurements d'excellents silex, même exceptionnels à Étiole, avec des silex de dimensions considérables, jusqu'à des dalles qui font jusqu'à un mètre, et qui ont très probablement attiré les gens qui ont joué ici comme à Étiole, dans la relative densité tout de même d'implantation.
Est-ce que l'on ne pourrait pas dire que jusque dans les années 60, on a fait une préhistoire des grottes? Tout se passait en grotte ou en abri sous roche. À partir des années 60, on va commencer à faire donc à une archéologie des bords de rivières, voire des bords de fleuves.
C'est lié à plusieurs facteurs. Hein. C'est lié d'abord à des facteurs externes à l'archéologie. C'est lié à, aux Trente Glorieuses, hein, donc à la multiplication des grands travaux qui conduit à des découvertes comme celle des Tarterets ou comme celle des Thioles, de Pinzon, etc. Et c'est lié aussi à un mouvement interne à la science préhistorienne, avec cette révolution méthodologique que André Leroy-Gourhan initie, qui est une révolution méthodologique, qui est aussi une révolution dans les objectifs. Hein. L'objectif, c'est désormais de reconstituer les modes de vie préhistoriques. Et pour reconstituer les modes de vie, on a besoin de sites bien conservés, et c'est surtout en plein air, comme on dit dans notre jargon, hors des grottes, qu'on trouve ces sites bien conservés, car recouverts notamment par ces dépôts d'inondation.
Les plus connus, bien sûr, donc le site d'Étiol qui se trouve à environ 1,5 km, et puis bien plus loin, le site découvert, je crois, en 1964 par André Leroy-Gourhan, le fameux site de Pinzon, sur lequel vous avez longtemps travaillé.
Et oui, j'ai commencé à Pincevent, j'y suis arrivé en 1982 très précisément, et puis vous voyez, je suis venu chez les cousins, parce que Pincevent c'est grosso modo même époque que Étiol. Bon, ça c'est un hasard qui fait que les deux grands sites phares de cette révolution des méthodologiques sont des sites donc des alentours de moins 15 000, dits magdaléniens. Voilà, c'est à Pincevent que la révolution s'est produite, et elle s'est poursuivie à Étiol, car les fondateurs de l'équipe d'Étiol, Yvette Taborin, Nicole Pigeot, Monique Olive, étaient des élèves de Leroy-Gourhan qui ont appliqué et développé les méthodes qui étaient en action à Pincevent depuis 1964.
Boris Valentin, j'aimerais en savoir plus sur cette communauté magdalénienne qui est très très importante pour l'Europe occidentale. C'est une grande société.
C'est un courant culturel qui traverse l'Europe, donc vers moins 15 000, depuis l'Espagne jusqu'à la Pologne, jusqu'à la Scandinavie et l'Angleterre actuelle, puisqu'on pouvait passer à pied sec depuis le continent, le niveau des mers était plus bas à l'époque. Donc c'est un courant culturel avec donc des manières analogues de tailler le silex, de fabriquer les instruments du quotidien, pour faire bref, et aussi de voir le monde, hein, puisqu'il y a des symboles partagés sur ces espaces aussi considérables. Ça continue à m'impressionner, hein, parce qu'il faut imaginer des sociétés avec des moyens de transport très limités, hein, essentiellement pédestres, et pourtant de proche en proche, hein, par des contacts, des interactions entre les petites communautés, des gens qui allaient vivre les uns chez les autres, hein, à l'occasion des mariages par exemple, eh bien, se sont diffusés ces concepts communs, hein, concepts concernant la vie de tous les jours et aussi la vie imaginaire.
C'est par exemple le cas de Gunnersdorf en Allemagne, où l'on a des sortes de Vénus extrêmement stylisées, gravées donc sur des dalles de schiste, que l'on retrouve aussi dans le Périgord ou dans le Quercy.
Alors voilà un des emblèmes du magdalénien qui a beaucoup circulé. On parle d'ailleurs des figures féminines de type Lalinde, c'est une grotte en Dordogne, Gunnersdorf. Gunnersdorf qui au passage est un habitat dont la structuration ressemble beaucoup à celle d'Étiol. Là il y a un lien mais qui s'établit à partir des modes d'installation, des types de huttes que les gens construisaient. En revanche, ici en région parisienne, on n'a pas ces petites figures féminines très très stylisées. Comme quoi, c'est pour ça que je préfère parler de courant culturel, parce que c'est les idées convergent à certains endroits ou pas. Hein. Il y a des idées qui sont absentes dans certaines régions, c'est normal. Sur des espaces aussi considérables, c'est normal qu'il y ait des particularismes régionaux. Donc pour l'instant, la région parisienne ne participe pas de ce courant de diffusion de ces petites figures féminines très schématiques, qui sont probablement des emblèmes très puissants à l'époque. Mais il y a d'autres choses encore, par exemple dans le style animalier, puisque ce sont des gens qui représentent très souvent les animaux, soit sur des objets, soit sur les parois des grottes. Et là aussi, il y a une stylistique très particulière au magdalénien.
Il faut revenir donc au site majeur du bassin parisien, qui est Étiol, donc vous le disiez tout à l'heure, fouillé durant 50 ans, un site majeur où l'on taille des lames de manière invraisemblable, un savoir-faire quasi unique.
À Étiol, les gens étaient sur une source de silex exceptionnelle. Déjà, c'est la source qui est exceptionnelle. Je pense qu'ils sont revenus à plusieurs reprises aussi pour cette raison. Les tailleurs taillaient à la façon magdalénienne, hein, des façons que l'on retrouve à travers l'Europe entière à l'époque. Mais ils ont aussi développé des savoir-faire particuliers. Quelques personnes, hein, très probablement quelques personnes seulement, ont développé des savoir-faire particuliers qui leur ont permis de tirer parti de blocs de très grande dimension, d'atteindre des dimensions de l'ordre de 50 cm pour les produits de la taille. Alors, quand on le dit comme ça, ça ne veut rien dire. Ça ne fait pas image tout de suite, mais il faut savoir que les chercheurs qui expérimentent la taille du silex aujourd'hui n'arrivent pas à reproduire ces dimensions-là. Les couteaux qui sont sortis de ces quelques blocs, qui ont été taillés de toute évidence par des maîtres tailleurs. Et la grande question est de savoir si ce ne sont pas, pour certains, des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui consacrent une bonne partie de leur temps à cela, ce qui bouleverse un tout petit peu la manière de voir des chasseurs-cueilleurs nomades, sachant qu'on a plutôt tendance à imaginer des sociétés très égalitaires, sans division sociale du travail, et que là, on a peut-être un cas, parmi quelques autres, de relative spécialisation artisanale. C'est en débat tellement ça bouleverse les idées reçues.
Il nous faut aussi parler de l'habitat, puisque des structures d'habitat ont été trouvées sur ce site, absolument majeures. C'est l'occasion aussi, donc, bien sûr, de citer Nicole Pigeot, professeure donc à l'Université de Paris 1, qui a formé des générations d'étudiants et qui vient de décéder. D'ailleurs, j'en profite pour lui rendre hommage dans le cadre de cette émission.
Alors, je ne peux pas en parler autrement qu'avec émotion, hein, parce que c'est une grande amie et collègue disparue. J'ai eu la chance d'apprendre à enseigner à ses côtés. Et Nicole Pigeot, donc, qui faisait partie des élèves de Leroy Gourhan, a poussé extrêmement loin à Étiole l'ambition paléthnographique, l'ethnographie préhistorique, comme disait Leroy Gourhan. Donc Nicole a poussé très très loin cette exigence à travers sa thèse et un certain nombre de publication donc sur Étiole, jusqu'à tenter ce qu'elle appelait une paléosociologie. Alors des bribes de sociologie, bien évidemment, puisqu'il ne reste rien des institutions politiques, matrimoniales, qui régissaient ces sociétés. En revanche, elle, à travers une étude très fine des techniques de taille du silex, très précisément, a pu mettre en évidence, à Étiole en particulier, pour l'instant il n'y a pas tellement de cas similaires ailleurs, hein, pour cette époque, là, donc c'est peut-être un phénomène assez local, ce degré de spécialisation particulière de certains individus. Donc, il repose des questions sur la structure sociale de ces groupes. À l'autre bout, elle a mis aussi en évidence des apprentis tailleurs, probablement des enfants, et elle a pu montrer aussi qu'il y avait une distribution des silex différentielle selon les aptitudes, les enfants n'ayant droit qu'au second choix, hein, donc il y a un contrôle social sur l'apprentissage, et de plus, ces enfants dans certaines habitations taillaient à l'écart, hein, pour ne pas encombrer les zones d'activité quotidienne. Alors, ce sont des résultats assez triviaux, mais il faut imaginer derrière la puissance d'analyse que ça mobilise, une puissance d'analyse qu'on peut reproduire maintenant ailleurs pour comparer justement les sociétés préhistoriques de ce point de vue-là. Et Nicole a formé des générations et des générations d'étudiants à cette exigence, cette très haute ambition intellectuelle.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Manon Houssin et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous reviendrons sur un grand mythe fondateur de Marseille, la légende de Gyptis et Protis.